Alors bonjour, aujourd'hui un enregistrement qui est semi-improvisé, semi parce que je ne sais pas comment je vais développer le sujet, quelles questions je vais me poser autour de ça, et l'autre moitié qui est un exercice imposé par, par moi-même, pour moi-même. Parce que j'ai été invité à une discussion en visio, donc je ne sais pas si ce sera enregistré, de quelle façon et quoi. Et le sujet serait la question du cadre. Et donc d'en parler maintenant, c'est une préparation pour moi, pour commencer à me mettre en condition, à me plonger dans cette réflexion, si on peut dire ça comme ça. Donc j'ai un peu l'impression de parler comme un philosophe de la télé quand je prends des précautions oratoires, mais j'apprends à le faire, je m'aperçois que ça fait gagner beaucoup de temps par la suite et que ça évite, que ça peut désamorcer éventuellement des réactions émotionnelles, épidermiques, naturelles et légitimes qu'on peut avoir quand on écoute quelqu'un parler et qu'on ne peut pas répondre directement, comme c'est le cas pour un podcast. Et donc, je vais parler comme si je m'adressais à cette personne précisément, et puis je ne sais pas si cet enregistrement sera suffisamment pertinent pour que je le publie sur, sur le podcast, et puis sinon, peut-être que je l'enverrai directement à la personne qui m'a invité pour cette discussion, et puis sinon, je le garderai pour moi. Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas, je prends un risque, je m'autorise. En tout cas, j'ai averti que je vais utiliser des facilités de langage, des commodités que sont la généralisation, les omissions, les interprétations libres, personnelles, subjectives. Et pour filer une métaphore en rapport avec la montagne, puisqu'il a été question de ça dans dans un de nos précédents échanges. J'ai cité Friedrich Nietzsche, le plus court chemin en montagne, c'est d'un sommet à un autre, mais pour ça, il faut avoir de longues jambes. Pour moi, ça veut dire que dès qu'on s'autorise un peu l'intuition de l'approximation, de ne pas être précis, de ne pas être exact dans les idées, principales, ça laisse plus de place à la contradiction et puis ça laisse plus de place à l'autocritique. Mais pour ça, il faut revenir en arrière, il faut trébucher, il faut tomber, faut pouvoir se rattraper. C'est voilà. Plus c'est intuitif et plus c'est dangereux pour moi dans le sens où je peux faire des erreurs, dire des sottises. Et voilà. Mais est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. À quoi ça engage d'écouter quelqu'un dire des sottises, je ne sais pas non plus. Donc la question du cadre, je pense que ce sera intéressant de s'attacher aux mots déjà, aux mots de cadre. Qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça correspond et de quoi on parle exactement. On peut commencer par prendre une représentation littérale du terme. Par exemple, chez moi, dans mon salon, il y a un seul cadre. C'est un tableau, c'est une estampe japonaise, c'est de la peinture à l'encre. Ça représente une pivoine et c'est un tableau qui s'étire légèrement en longueur. Il y a un texte en idéogramme japonais dont j'ignore totalement la teneur. Et ce tableau, il est entouré d'un cadre qui le valorise, qui permet de séparer l'image du reste, voilà, du reste qui est. Qui est tout blanc, quoi, voilà. Et donc, ce cadre, à quoi sert-il? Quel en est, voilà, quelle en est l'origine, quel en est le but, à quoi ça sert? Je pense que structurellement, non, pas structurellement, mais à la base, le mot cadre, la notion de cadre, elle va forcément nous induire en erreur, parce qu'on va avoir des références autour d'une définition abstraite de ce que serait le cadre, mais par définition, si c'est abstrait, c'est pas vraiment une définition, ou alors elle est propre à chacun. On peut parler d'un cadre en entreprise, on peut parler du cadre d'une séance. Je pense que c'est de ça qu'on parle en fait. Il s'agit d'un ensemble de règles, il s'agit d'un ensemble de principes, d'un ensemble de codes et d'un ensemble d'obligations et d'interdiction. Ça implique beaucoup de contradictions avec, en tout cas, moi, ce que je pose concernant dans l'hypnose, qui me vient d'autres gens qui l'ont posé avant moi, mieux que moi, etc. Qu'on serait là plutôt pour favoriser une émergence, quelque chose de libre, quelque chose de spontané, quelque chose qui échappe à des notions qui seraient d'ordre interdiction, obligation, le bon sens, et des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a il y a des moments dans la pratique, et même forcément dans la théorie, hein, enfin dans les diverses théories, il y a des moments où on est obligé de reculer par rapport à ce qu'on croit poser comme cadre, ce qu'on croit avoir comme connaissance, et tout ce qu'on peut ajouter de projection, de présupposé. Je présuppose que le cadre, ça doit être comme ça, mais j'ai cette personne en face de moi qui fragilise mon cadre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que mon cadre est rigide? Est-ce qu'il est souple? Dans quelle mesure? Et tout ça, c'est en lien avec une situation. Une situation unique, une situation qui ne se représentera pas, qui a lieu dans un instant qui n'existera qu'une fois. Jusqu'à quel point on doit être solide, enraciné dans notre cadre, et jusqu'à quel point on peut s'en affranchir. Dans quelles conditions, pour quelles raisons, dans quel but, pour qui? Est-ce que c'est le cadre de l'accompagnante, de l'accompagnant, ou est-ce que c'est le cadre de la cliente ou du client? De quel cadre on parle? Est-ce que mon cadre est compatible avec le cadre de la personne que je reçois? La personne arrive avec son cadre personnel. Ça peut être ses croyances, ça peut être ses valeurs, ça peut être ce qu'elle pense pouvoir ou devoir faire, et vice-versa. Et ça peut être ses attentes, ça peut être ses références, son historique, comment la personne se sent à l'instant T, sa météo intérieure, en quelque sorte. Et toute la communication et tout le contenu de la séance va être contextuel, il va être situationnel, il va exister une seule fois. Et je pense qu'il y a une sorte de zone commune, un troisième cadre en quelque sorte, un cadre commun où le cadre des deux personnes, si on parle de deux personnes, mais si on parle de thérapie de couple, thérapie de groupe par exemple, ou même d'auto-hypnose, les zones communes vont être différentes. Mais disons qu'il y a un moment où les cadres vont se superposer. Donc tu mets deux carrés ensemble, voilà, tu les poses un peu l'un sur l'autre, ça te fait un espèce de troisième carré, avec des dimensions variables, et peut-être même des dimensions qui sont variables au moment de la séance, quoi. C'est-à-dire que tout au long de la séance, le cadre peut-être qu'il va s'élargir, peut-être qu'il va se restreindre, en tout cas il va se préciser. Et ça peut être déjà une bonne, peut-être pas une approche, mais une idée un peu plus précise de ce que pourrait être le cadre dans la séance d'hypnose, c'est que par définition, c'est quelque chose qui n'existe pas au début de la séance, mais qui va se co-construire, pour parler un peu avec l'écho quelque chose, ça fait bien, c'est à la mode, tu vois. On va co-fabriquer, on va co-concevoir, voilà, on va coexister dans quelque chose qui est évolutif, qui est natif au moment du démarrage de la séance, et qui va se préciser par le dialogue, par l'écoute, par l'expression la plus sincère possible, pour reprendre les mots de Franck Maya dans la dernière visio, faire avec qui on est, utiliser l'outil que nous sommes. Voilà ce que je peux en dire aujourd'hui. Maintenant, si je postule que la notion de cadre, elle est liée à une situation, on a besoin d'avoir des représentations un peu archétypales, peut-être même caricaturales, projectives, partielles, qui permettent de délimiter au moins une zone qui peut être floue, qui peut être pas très bien dimensionnée, mais en tout cas qui existe en tant qu'intention de pas laisser les choses s'échapper dans le but, parce que finalement tout se ramène à ça, tout se ramène à la fonction du cadre, c'est de protéger la personne qu'on va recevoir, de la protéger contre nos projections, contre nos erreurs. De protéger la personne d'elle-même, d'accord, dans le sens de montée émotionnelle particulièrement intense que la personne n'a peut-être pas les moyens d'encaisser. En fait, l'approche cathartique n'est pas adaptée à tout le monde. Donc le cadre, sa fonction, c'est à la fois de mettre en déséquilibre d'une certaine manière quelque chose pour amener l'hypnose, pour amener un changement, et en même temps de sécuriser les choses. Je recite Kevin Finnell, un boulot de thérapeute, c'est de déstabiliser et de sécuriser. Mais je pense que sécuriser, ça passe quand même en premier. Voilà. Et donc, pour conclure, on peut partir de situations extrêmes, de situations perturbantes pour nous thérapeutes, de situations chaotiques, de situations vraiment qui seraient les plus déstabilisantes pour nos cadres, pour au moins arriver à dessiner quelques limites. Par exemple, tu as quelqu'un qui t'appelle ce matin, maintenant, et qui te dit, voilà, je vous appelle pour mon fils qui a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Voilà. Hier soir, il était complètement bourré, il a un problème avec l'alcool, il a tout ravagé dans la maison, il a tout cassé, on a eu super peur. Personne ne peut le recevoir, voilà, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de psychiatre, il n'y a pas de psychologue, il n'y a personne. J'ai entendu parler de vous, est-ce que vous pouvez le recevoir ce soir après 18 h? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ton cadre théorique, qu'est-ce qui reçoit comme percussion avec une demande comme ça? Et des exemples comme ça, bon, tu peux en avoir à l'appel n'importe quand. Et l'idée, c'est pas d'attendre d'être en face de situations comme ça pour se poser la question, qu'est-ce que je fais? Donc il y a un travail d'imagination, enfin un travail, si c'est de l'imagination, enfin c'est pas un travail. Comment faire? J'évoque, et peut-être que ça peut amener à imaginer des situations, quels seraient les pires scénarios possibles, ton pire cauchemar en séance d'hypnose en fait, quoi. Alors sans aller jusqu'à faire ça en auto-hypnose, parce que il s'agit pas non plus de te torturer, quoi, c'est pas l'idée. Mais par exemple, la situation qui te ferait le plus peur en séance, ce serait quoi? La demande à laquelle t'as même pas envie de rappeler la personne parce que t'es tellement c'est compliqué, quoi. Voilà ce que je peux en dire aujourd'hui. Donc, bah, j'ai hâte d'avoir cette discussion parce que je pense qu'on va tous apprendre quelque chose à travers ça. Merci de ton écoute et à bientôt. Ciao.